Seigneur, nos sentiments, oh merci pour tout. Nous n'avons que toi là-haut. Nous n'avons que toi dans tout l'univers. Nous n'avons que toi ici-bas. Seigneur, merci de nous aider à vivre, oh Dieu, ta présence au quotidien. Avoir, Seigneur, cette confiance totale et entière en toi, mais aussi dans ta parole. Cette parole que nous nous apprêtons, Seigneur, à recevoir. Que cette parole puisse trouver des cœurs bien disposés pour la mettre en pratique. Oh Dieu, donne-nous de grandir, de croître dans ta grâce, mais aussi dans ta parole. Que nous soyons des hommes et des femmes remplis de ta parole. Des hommes et des femmes dont la vie reste soumise à l'autorité de ta parole. Que nous marchions, Seigneur, oh Dieu, en ayant nos regards fixés sur toi et en ayant, oh Dieu, nos cœurs conduits, dirigés par ton Saint-Esprit et ce, au moyen de ta parole. Bénis ton serviteur, chargé, Seigneur, de proclamer cette parole. Bénis chacun de nous, que nous puissions la recevoir comme étant la nourriture dont nos âmes ont besoin. Merci pour tout. Merci, Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur, veuillez vous rasseoir, nous acclamons le nom du Seigneur. Voilà, je voudrais revenir sur notre thème concernant la nécessité de connaître les Écritures. Donc, thème qui a été interrompu par les activités de fin d'année, notamment par Noël, parce qu'il a fallu apporter un message en rapport avec Noël. Mais aujourd'hui, nous allons reprendre. Et je voudrais que nous puissions entrer dans cette nouvelle année en sachant que c'est vraiment une attente de la part du Seigneur de nous voir grandir, croître dans la connaissance de sa parole, et de nous voir être des hommes et des femmes remplis de sa parole, des hommes et des femmes qui lisent, qui méditent sa parole régulièrement, car elle reste et demeure, oui, cette parole, la Sainte Écriture, le moyen par excellence que Dieu utilise pour se révéler à nous. Connaître les Écritures et la puissance de Dieu. Amen. Nous allons relire une fois de plus, nous allons aller à la rencontre des Sadducéens, ces théologiens, ces hommes qui étaient extrêmement intelligents, qui avaient les Saintes Écritures, qui la lisaient, qui observaient les fêtes religieuses, qui avaient développé toutes sortes de théologies à partir, eh bien, de l'Ancien Testament, mais qui cependant, comme le Seigneur va leur dire, eh bien, ignoraient la parole, ne la connaissaient pas et par conséquent ne pouvaient pas expérimenter la puissance de Dieu. Nous allons lire donc dans Marc chapitre 12, Marc 12, à partir du verset 18, nous lisons, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection vinrent auprès de lui et lui posèrent cette question. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et laisse sa femme sans enfant, son frère épousera la femme et suscitera une descendance à son frère. Or, qui avait sept frères, le premier se maria et mourut sans laisser de descendance, le second épousa la veuve et mourut sans laisser de descendance, il en fut de même du troisième. Et aucun des sept ne laissa de descendance. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car les sept l'ont eue pour femme. Jésus leur dit, voici pourquoi vous êtes dans l'erreur, vous êtes égarés, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. En effet, quand ils ressusciteront d'entre les morts, les hommes ne prendront pas de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges dans les cieux. Quant aux morts et à leur résurrection, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui a dit auprès du buisson, « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Votre erreur est grande, votre égarement est horrible. » La connaissance des Saintes Écritures, l'expérimentation de la puissance de Dieu, En d'autres mots, comprendre les Écritures, connaître la puissance de Dieu, voilà ce qu'il attend de chacun de nous. Et je voudrais, mes amis, que chacun de nous entre dans cette nouvelle année avec cette pensée de croître, de grandir dans la connaissance vraie de la personne de Dieu, connaissance qui passe immanquablement par la connaissance des Saintes Écritures, et en même temps que cette compréhension, que cette connaissance des Saintes Écritures de la personne de Dieu puisse nous amener à expérimenter sa puissance. Amen. La connaissance des Saintes Écritures, la compréhension, mes amis, de cette révélation écrite du Créateur à l'humanité et la connaissance ou l'expérimentation de la puissance de Dieu sont intimement liés. Si vous êtes dans l'erreur, mes amis, si vous êtes dans l'ignorance, si vous êtes égarés par une mauvaise compréhension des Saintes Écritures, si votre foi est nourrie par une parole falsifiée, eh bien, laissez-moi vous dire une chose, vous n'irez pas loin dans votre marche avec Dieu. C'est donc quelque chose d'indispensable, quelque chose de nécessaire. Connaître les Saintes Écritures, grandir dans cette connaissance pour expérimenter la puissance de sa grâce. En d'autres mots, la vraie connaissance, qui est plus que théorique, qui est plus qu'intellectuelle, plus que cérébrale, la vraie connaissance de Dieu, eh bien, conduit à l'expérimentation de sa puissance. On ne peut pas dire « je connais Jésus » et mes amis, n'est pas expérimenté sa puissance de salut, sa puissance de délivrance, sa puissance de restauration, sa puissance de guérison, etc. Voyez-vous? Donc la connaissance est indispensable, la vraie. Celle que nous avons par le Saint-Esprit, comme nous l'avons déjà vu depuis que j'ai débuté cette série d'enseignements. Dans Jean chapitre 20, verset 30 à 31, écoutez ce que l'apôtre bien-aimé nous dit. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ses livres, c'est-à-dire dans ce quatrième évangile, dans ces livres que lui a écrits. Jean nous dit que Jésus a fait plus que ce qui nous est rapporté dans son écrit. Voyez-vous, beaucoup d'autres miracles, beaucoup d'autres signes, et comme j'ai déjà eu à vous le dire, l'apôtre Jean, auteur du quatrième évangile, privilégie l'usage du mot « signe », ce que nous avons traduit dans nos versions par « miracle », lui utilise le mot « signe »,« séméion » ou « séméa », car pour l'apôtre Jean, tous ces actes de miracle, toute cette démonstration de puissance, eh bien, mes amis, sont des signes pour nous conduire à Jésus et croire qu'il est. Alléluia. Ce n'est pas simplement une manifestation de sa puissance qui nous permette d'expérimenter la guérison, qui nous permette de manger à notre faim, qui nous permette d'expérimenter telle ou telle autre bénédiction, mais c'est cette démonstration de puissance, mes amis, a donc pour but d'amener les gens à croire qui est Jésus. Mais regardez, revenons à ce texte. Il a fait encore, en présence de ses disciples, à beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, dans ce quatrième évangile. Mais, il ajoute, mais, ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ et le Fils de Dieu et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Alléluia. Ceci a été écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, celui le Messie promis, celui la solution au problème de l'humanité. Il est le Fils de Dieu qui existe de toute éternité et il ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas à la croyance, à la sentiment intellectuel. Et il ajoute, afin qu'en croyant, oh alléluia, vous ayez la vie en son nom. Cette vie de salut qui nous libère du pouvoir de la perdition, qui nous libère du pouvoir du péché, qui nous libère, mes amis, du pouvoir des ténèbres et nous permet de vivre une vie de sanctification, cette puissance-là se trouve dans le nom de Jésus. Alléluia. Ceci a été écrit afin que vous croyiez qu'il est, et puis il ajoute, et qu'en croyant, vous ayez la vie, vie de salut, vie de délivrance, vie de sainteté, vie qui glorifie Dieu. Oh, alléluia. Nous voyons donc, mes amis, que la vraie compréhension des Écritures suscite en nous la foi. Selon qu'il est écrit, Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Ceci a été écrit afin que vous croyiez. Et cette foi-là, mes amis, finit par nous conduire à l'expérimentation de la puissance du Seigneur. Alléluia. Afin qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Ceci a été écrit. Ou mieux, ceci est écrit, puisque c'est un temps, en grec, c'est un temps que nous n'avons pas en français. En français, on a le passé composé, le passé simple, le plus que parfait, tout ça. Nous n'avons pas le temps parfait. Voyez-vous, c'est ainsi que dans certaines versions récentes, au lieu de dire ceci a été écrit, voyez-vous, puisque c'est imparfait, écrit dans le passé avec des résultats, des conséquences dans le présent, eh bien, on a privilégié ce verbe, ceci est écrit, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, qu'en croyant, vous ayez la vie de Dieu. Alléluia. Donc, ceci n'a pas été écrit pour nous permettre de faire simplement de la théologie, pour simplement nous permettre, mes amis, de développer toutes sortes de discours systématiques sur les vérités concernant Dieu, concernant le Seigneur, concernant le Saint-Esprit, concernant le salut, concernant les anges, concernant l'Église, etc. Ça n'a pas été écrit afin de nous permettre d'acquérir simplement un certain savoir intellectuel. Pas du tout. Mais l'apôtre ajoute, ceci a été écrit, afin qu'en croyant, nous ayons la vie en son nom. Donc nous voyons là, mes amis, le but de toute connaissance, de toute compréhension des Saintes Écritures. C'est de nous amener à expérimenter la puissance libératrice, la puissance salvatrice, la puissance transformatrice du Christ et dans notre vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avons besoin de vivre, d'expérimenter la plénitude de sa vie. Nous avons besoin de vivre, d'expérimenter, mes amis, cette vie nouvelle en Christ. Et pour cela, nous devons avoir au départ une bonne compréhension. Et cette bonne compréhension, par l'action du Saint-Esprit, nous amènera, in fine, à expérimenter la puissance de Dieu. En d'autres mots, la vraie théologie, c'est celle qui amène, c'est celle qui conduit les gens, mes amis, à la plénitude de la vie de Christ. Amen. Aujourd'hui, beaucoup sont attirés par les études. C'est très bien. Moi-même, je les ai faites. J'ai voulu aller plus loin. J'ai vu aussi le danger. Voyez-vous. Aujourd'hui, on fait la théologie pour la théologie. Il y en a qui n'ont pas su percer dans la vie, qui n'ont pas pu décrocher un diplôme dans telle ou telle autre discipline scientifique, et puis finalement ils se disent, ah oui, mais tous mes amis ont une licence, eh bien, le domaine où je peux facilement décrocher une licence, c'est la théologie ou les études bibliques. Alors ils y vont, voyez-vous, et les études deviennent un but en soi, voyez-vous. Vous pouvez avoir un vélo, on vous donne un vélo. On vous donne tout le nom des éléments constitutifs d'un vélo, n'est-ce pas? On vous dit que ce vélo, pour avancer, il faut pédaler. On vous donne toute la théorie sur le vélo. Quand vous faites ça, vous tournez à droite, ça c'est le guidon. Quand vous faites ça, vous tournez à gauche. Quand vous faites ça, vous allez tout droit. Voilà les freins, etc. Vous pouvez connaître tout cela. Mais si vous ne vous mettez pas à monter sur le vélo, vous ne saurez jamais rouler avec un vélo, oui ou non. Vous allez avoir toute une théologie, enfin toute une théorie sur le vélo. Pour les avions, c'est la même chose. Vous allez dans une école de pilotage, vous allez apprendre tout cela. Voyez, vous pouvez fermer les yeux, voir le cockpit, les différents éléments dans le carlingue et tout ça. Voilà, ça c'est pour le moteur, ça c'est ceci, cela. Mais si vous n'apprenez pas à monter à bord et à voler, vous ne serez jamais un bon pilote. Il en est de même de la Bible, mes amis. La connaissance n'est pas une fin en soi. La connaissance est un moyen qui doit nous amener à l'expérimentation de la plénitude de la vie de Jésus. Alléluia. Or, aujourd'hui, ça a été aussi le cas dans l'histoire de l'Église, mais enfin, moi je ne peux parler que d'aujourd'hui, et on peut le voir également dans l'histoire de l'Église. Aujourd'hui, mes amis, l'Église du Christ est de plus en plus friande d'une connaissance théologique strictement intellectuelle. Les gens se contentent d'avoir des diplômes, de défendre des thèses à gauche, à droite, et puis d'arriver au bout et d'être satisfait. Oui, il y a une certaine satisfaction d'arriver au terme des études qu'on a amorcées, d'obtenir un diplôme, peu importe, vous voyez. Et puis, ça s'arrête là. Voyez-vous, on brandit ce titre. On se retrouve avec un cerveau à plusieurs étages, mais sans aucune vie spirituelle. Voyez-vous? Mes amis, cette religion du savoir, qui met beaucoup d'accent sur la connaissance intellectuelle, cette religion du savoir entraîne ostensiblement les gens, les chrétiens, dans les méandres de la sagesse humaine et de la séduction, et ceci constitue un vrai obstacle à la vie de l'esprit et à la communion avec Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas beaucoup étudié, qui n'ont pas été très loin dans leur cursus scolaire, mais qui cependant connaissent Dieu dans la puissance du Saint-Esprit. Ils lisent la parole de Dieu régulièrement. Ils se laissent enseigner, comme nous l'avons vu, par les différents ministères que le Seigneur a fait lever. Ces gens sont en communion avec Dieu. Et j'aimerais vous dire, ces gens-là sont une véritable menace pour l'enfer. Car le diable ne craint pas les gens qui ont des diplômes. Le diable craint l'homme et la femme qui est en communion intime avec le Seigneur. Alléluia. Celui-là ou celle-là brille de la lumière du Christ. Celui-là ou celle-là, mes amis, est embrasé par le feu de la Pentecôte. C'est ce feu-là, mes amis, qui fait trembler l'enfer. C'est ce feu-là qui fait reculer les ténèbres. Et notre monde aujourd'hui a besoin des chrétiens embrasés, des chrétiens flamboyants, des chrétiens qui brûlent par le feu de l'Esprit, par l'Écriture sainte. Gloire à Dieu. Nous l'avons vu avec les disciples d'Emmaüs, Cléopas et son ami. Là, le jour où le Seigneur est ressuscité, ils avaient entendu des témoignages des femmes qui avaient été au tombeau du Seigneur, qui ont rapporté un témoignage formidable en disant « Le tombeau était vide et les anges nous sont apparus et nous ont dit qu'il est ressuscité. » Ils avaient entendu tout ça. Mais ce qu'ils avaient entendu est le simple fait de savoir que le tombeau était vide n'avait pas suffi pour les amener à une vraie connaissance et par conséquent pour les amener à l'expérimentation de la puissance de résurrection de Jésus. Jusqu'à ce que ce jour-là, ce soir-là, alors qu'ils quittaient Jérusalem pour remonter un tout petit peu vers Emmaüs, au nord-ouest de Jérusalem, quelqu'un va voyager avec eux. Quelqu'un les approche. Et ce quelqu'un n'était autre que le Seigneur de gloire. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Ils étaient là à discuter, la peine dans le cœur. Ils se sont dit, voilà, c'est fini. Nous espérions que celui qui allait délivrer Israël du joug des Romains, qui allait nous débarrasser de tous ses ennemis, de tous ses adversaires, nous pensions que lui, le Messie, il allait accomplir pleinement, rétablir le royaume de David. et nous permettre de vivre pleinement comme il nous l'avait promis. Et puis voilà, ça fait 3 jours qu'il est mort. Certes, des femmes, oui, des femmes. Vous voyez, les a priori sur les femmes ne datent pas d'aujourd'hui, hein. Certes, des femmes nous ont dit que des anges leur sont apparus et leur ont dit qu'il est ressuscité. Mais bon, après tout, ce sont des... Ils n'ont pas donné du crédit à ce témoignage. Le Seigneur leur demande, de quoi parlez-vous? Ah, mais tiens, ils sont surpris. Comme pour dire, mais monsieur, d'où venez-vous? Vous êtes le seul qui séjourne à Jérusalem et qui ne sache pas ce qui s'y est produit. Ah bon? Quoi donc? Oh, monsieur, ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, un homme puissant en œuvre, puissant en parole devant Dieu, nos religieux, nos responsables l'ont crucifié, etc. Il paraît à un moment, le Seigneur les arrête et dit, homme sans intelligence. Et là, lui-même, le docteur des docteurs, l'enseignant par excellence, il va, à partir des Écritures, leur montrer comment les Écritures étaient là pour confirmer tout ce qui lui est arrivé. Et pendant qu'il parlait, quelque chose s'est passé en eux. Je vous avais dit, quand ils arrivent finalement à Emmaüs, il passe à table et puis lui prend le pain et hop, quand il dit la bénédiction, enfin leurs yeux s'ouvrent, ils le reconnaissent. Au même moment, le Seigneur disparaît. Et ils se retrouvent tous les deux à se regarder. Cléopas regarde son compagnon et dit, mais c'est formidable, nos cœurs, littéralement, nous l'avons vu, nos cœurs ne brûlaient-ils pas en nous lorsqu'il ouvrait les Écritures? Oh, alléluia! Quand les Écritures sont ouvertes, la vie de l'Esprit en jaillit. Oh, alléluia! Quand les Écritures sont ouvertes par le Seigneur lui-même, mes amis, la vraie connaissance, une connaissance vivante en jaillit, et nous expérimentons la puissance du Christ. Sur place, leur cœur a été réchauffé par le feu d'en haut. Leur cœur a été réchauffé par les paroles puissantes sorties de la bouche du Créateur même. Ils se sont regardés et dit, non, cette fois-ci, nous n'allons pas garder cette bonne nouvelle pour nous. Le feu brûlait tellement en eux, eh bien, ils ont décidé cette même nuit. Il faut savoir que, Emmaüs et Jérusalem, c'est 11 kilomètres, hein. Cette nuit-là, avec tout le risque de tomber sur une bande de brigands ou de coulounas, eh bien, ils sont partis pour aller trouver les autres, pour leur dire, oui, il est véritablement ressuscité. Ce n'était plus de la théorie, c'était une rencontre personnelle. Leur connaissance, enfin, a été embrasée. Et ils ont vécu des moments merveilleux. Nous devons faire attention avec ce savoir qui devient dans certains de nos milieux, même pentecôtistes. Mes amis, où les gens aiment tellement la connaissance, c'est bien la connaissance, mais la connaissance pour la connaissance conduit à l'orgueil. La connaissance doit nous amener à la vie par l'esprit. Et quand l'esprit est là, on ne peut pas, mes amis, s'enorgueillir de cette connaissance. Au contraire, on devient tout petit, car on réalise qu'on ne connaît pas comme il faut connaître. C'est ce qui arrive pour les gens qui veulent aller plus loin dans la connaissance, mes amis. À chaque fois, vous découvrez qu'il y a des choses qui vous dépassent. Voyez-vous, la Bible nous donne des choses pour notre salut, pour connaître le Seigneur. Voyez-vous, mais la Bible ne nous donne pas tout sur le ciel. On nous parle des anges, de l'archange, on nous parle des chérubins, des séraphins, mais il y a d'autres gloires célestes que la Bible ne nomme pas. Donc la réalité est au-delà. Cependant, ce qu'il nous a donné est amplement suffisant pour notre salut. Ce qu'il nous a donné est amplement suffisant pour que nous le servions dans la puissance de son Saint-Esprit. Et gloire à Dieu. Pour parler de manière académique, parce que je sais qu'il y a des étudiants en Bible, pour parler de manière académique, vous pouvez toujours apprendre, la vraie christologie, la vraie doctrine de Christ, c'est-à-dire le vrai enseignement sur le Seigneur Jésus, l'enseignement systématique sur toutes les vérités concernant Jésus, ce qu'on appelle la doctrine, eh bien, conduit et doit conduire à la sotériologie, au salut. On part du Christ, on arrive au salut. J'ai eu à enseigner pendant de nombreuses années, comme j'étais chargé de cours, sur l'évangile de Jean, et je peux vous assurer, je me régalais. On voit, il termine son livre par cette phrase, par ces paroles précieuses. Jésus a encore fait, en présence de ses disciples, beaucoup de miracles qui n'ont pas été écrits dans ses livres. Mais ceci a été écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie éternelle. Nous voyons que la vraie christologie se télescope avec le salut. Afin qu'en croyant, vous ayez la vie. Oh, alléluia. Oui, nous devons le savoir. La Bible n'a pas été écrite pour que nous fassions de la théologie simplement. Mais elle a été écrite dans le but de nous amener à connaître véritablement Dieu et à expérimenter sa puissance de salut. À expérimenter sa puissance libératrice, restauratrice. Il y a des gens qui ont fait des thèses, j'en ai connu. Voyez-vous, mes amis, de docteurs en théologie, maître en théologie. Chez les catholiques, le titre de maître existe au-dessus du doctorat. Mais qui n'ont jamais expérimenté le salut en Jésus. C'est un drame, oui ou non? Oui, la vraie connaissance du Christ doit conduire à l'expérimentation de sa vie. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et pourtant, c'était des gens dont le cerveau avait été façonné, modelé par une certaine connaissance intellectuelle de la Bible. Pour revenir à Marc 12, le Seigneur dit aux Sadducéens, « Voici pourquoi vous êtes dans l'erreur. » Littéralement, « Voici pourquoi vous êtes égarés. » Cette mauvaise compréhension les avait égarés. Les avait mis sur le chemin, mes amis, qui conduit tout droit à la perdition. Vous ne comprenez ni les Écritures, au verset 24, ni la puissance de Dieu. Donc, mes amis, le manque de connaissance, de la vraie connaissance de la parole de Dieu, de la personne de Dieu, ouvre, hélas, la porte à l'égarement, conduit sur le chemin enténébré avec des conséquences terribles. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Faites le tour de notre ville de Kinshasa. Allez d'assemblée en assemblée, vous allez voir, mes amis, des doctrines bizarroïdes, farfelues, qui sont enseignées. Vous allez voir des gens qui vivent, qui mènent une vie qui est contraire, mes amis, aux prescrits de la parole de Dieu. Et pourtant, ces gens lisent la Bible. Et pourtant, ces gens enseignent la Bible. Tout cela parce que ils sont dans l'erreur par rapport à la vraie connaissance de la parole. Le manque de connaissance. Il y a un voile qui est là sur le cœur de l'homme, qui a obscurci son intelligence. Et tant que ce voile est là, vous avez beau lire la Bible, vous avez beau aller dans une faculté de théologie libérale ou que sais-je, décrocher un doctorat, mais ce n'est pas cette connaissance intellectuelle qui enlèverait le voile. Paul a dit aux Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 13 à 14 à 18, écoutez ceci, mais ils, c'est-à-dire le juif, ils se sont endurcis dans leur pensée. Car jusqu'à ce jour, quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, voilà, quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, le même voile demeure. Le voile n'est pas enlevé parce qu'il ne disparaît qu'en Christ. Oh, alléluia. Le voile n'est pas enlevé. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, il y a un voile sur leur cœur. Mais lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Le voile de l'incrédulité. Le voile sur le cœur de gens qui les empêchent de comprendre la parole de Dieu. Pourtant, ils ont des doctorats. Et pourtant, ils ont ceci, ils ont une intelligence vive, fervente, tout ce que vous voulez. Mais ils ne peuvent pas comprendre, car ce voile n'est ôté quand Jésus est par Jésus. Quand il enlève ce voile, eh bien, il y a quelque chose qui se passe. Car Jésus reste au cœur, aussi bien de l'Ancien Testament que du Nouveau Testament. Alléluia! Tout repose sur la personne du Messie. Tout repose sur le ressuscité du troisième jour. Tant que les Juifs n'auront pas compris cela, ils continueront à lire le Tanakh, leur Tanakh, c'est-à-dire leur Bible, constituée de la Torah, de la Torah, des prophètes et des livres, des autres livres, c'est-à-dire l'ensemble de l'Ancien Testament tel que nous l'avons. Ils lisent les mêmes passages qui nous bénissent, qui nous amènent à mieux comprendre qui est Jésus, mais eux, ils ne comprennent rien, car il y a un voile. Ce voile ne peut être enlevé qu'en Jésus seul. Alors annoncez Jésus, proclamez Jésus, ne regardez pas au simple fait qu'ils sont juifs, ils ont besoin de Jésus, car c'est par Jésus et par Jésus seul que les juifs, les grecs, les africains, les américains, les japonais, les chinois, les indiens, les australiens, les esquimaux, c'est par Jésus seul que nous avons accès auprès du trône de la grâce. Parce qu'il y a de plus en plus de pasteurs qui pensent que les Juifs peuvent être sauvés comme ça. Moi, j'en ai discuté avec un pasteur, cependant, pourtant, nous étions à Jérusalem, et il dit non, eux, ils n'ont pas besoin de croire. J'ai dit, mon frère, tu ne lis pas la Bible, Beaucoup ne lisent pas la Bible. Et c'est ainsi que vous voyez, vous assistez aujourd'hui dans notre pays, où, comme il y a un proverbe français qui le dit, au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Les gens ne veulent pas s'en sourire, lire la Bible et tout ça. Et vous avez de plus en plus de pasteurs qui judaïsent. Il y en a qui ont des châles de prière. Vous en avez déjà vu? Répondez à haute voix. Ouais. Il y en a qui mettent même la toque, là, comment je sais pas, la kippa, merci. Qui mettent la kippa. Il y en a même qui sonnent du chauffard. Le chauffard, c'est la corne de buffle que nous trouvons dans l'Ancien Testament. On sonnait pour que le peuple parte à la guerre, pour louer, etc. On pense qu'en sonnant du chauffard, le Saint-Esprit descendrait. Vous voyez comment le diable est en train, non seulement d'aveugler les gens, mais de les ridiculiser. Ils sont en train de vouloir recoudre le voile que Jésus a déchiré. Non! Ne cherchez pas à recoudre. Vous allez vous perdre pour rien. Le voile a été déchiré une fois. Désormais, l'accès du royaume est ouvert à tous les Juifs pour autant qu'ils croient en Jésus comme le Messie, à tous les Arabes, à tous les Africains, pour autant qu'ils croient que Jésus est le Messie. Il n'y a pas de Jésus noir. Non, il n'y en a pas, il n'y a pas de Jésus indien. Un seul descendant de la race d'Israël. C'est lui le Messie. C'est lui le soleil levant. C'est lui le prince de paix. C'est lui qui sauve l'humanité. C'est lui la lumière des nations. C'est lui la gloire d'Israël. Yeshua Messiah. Quand je parle de ça, mes tripes, mes amis, bougent. Car on assiste dans cette ville à un égarement mortifère. On entend des discours du genre, oui, Jésus c'est pour les blancs, nous avons notre Messie. Attention, il vous amène sur le chemin de l'égarement, sur le chemin de la mort. Quittez Bolongwa, tournez-vous vers Jésus de Nazareth. En Jésus, le voile est enlevé. Ça veut dire que sans lui, le voile est toujours là. On a beau faire toutes sortes d'études bibliques et tout ça, philologiques, J'ai eu des professeurs en philologie très, très instruits, très intelligents, mais qui n'avaient jamais expérimenté Jésus. Le voile est ôté, enlevé, qu'avec Jésus et en Jésus. Ainsi, malgré la lecture de la Bible, malgré l'étude systématique de la Bible avec une intelligence strictement humaine, cérébrale, eh bien, le voile est toujours là. Ce n'est que lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, alors le voile est enlevé. Puisqu'on entre là dans la vraie connaissance de Dieu, vraie connaissance qui débouche sur une expérience. Voilà pourquoi le verset 18 du chapitre 3 de 2 Corinthiens dit ceci. Nous tous, qui le visage dévoilé, qui le cœur, dont le cœur, dont le voile a été enlevé de notre cœur, l'apôtre dit, nous tous qui le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, regardez le résultat, nous sommes transformés, nous sommes métamorphosés à la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Ça, c'est l'expérience. C'est-à-dire, cette connaissance, après que le voile soit ôté, nous amène, mes amis, dans l'expérience ou l'expérimentation de la puissance de Dieu, la puissance transformatrice du Christ, la puissance restauratrice. Ainsi, nos vies changent, nos vies sont métamorphosées, et nous ressemblons de plus en plus à Jésus. Et ça, c'est dans la vie, et non pas simplement sur le plan intellectuel. Quand le voile est ôté, nous comprenons alors la parole de Dieu, alléluia. Notre cœur est ainsi dévoilé, et nous pouvons contempler la gloire du Seigneur. Et plus nous contemplerons la gloire du Seigneur, plus, mes amis, le Seigneur, cette présence du Seigneur en nous, va nous transformer, va nous métamorphoser, et nous amener à aller de gloire en gloire, c'est-à-dire en lui ressemblant de plus en plus en tout, dans nos actions, dans nos réactions, dans notre caractère, dans notre personnalité, alléluia. Puis pour terminer, comprendre, connaître mes amis, la puissance de Dieu est le but de toute véritable compréhension de la Bible. Puissance salvatrice pour les perdus, puissance libératrice pour les captifs du diable, puissance de guérison pour les malades, puissance de victoire face, mes amis, aux hôtes de l'enfer. Puis connaître la puissance de Dieu, voilà ce qu'il attend de chacun de nous dans cette nouvelle année. Je reviendrai prochainement sur cette nécessité. Qu'est-ce que c'est comprendre la puissance de Dieu, connaître la puissance de Dieu? Mais à ce stade, mes amis, nous devons savoir qu'il n'est pas du tout question d'acquérir une simple connaissance intellectuelle, une simple connaissance cérébrale, une sorte d'érudition, maîtrise sur tous les sujets de la Bible, mais il est bien question d'expérience vivante, d'expérience puissante, expérience induite par la vraie connaissance de la personne de Jésus. Amen. Voilà ce que Dieu attend de nous dans cette nouvelle année. Acclamons son nom. Nous sommes inclinés dans la prière. Nous voulons demander à Dieu de nous assister, de nous aider dans cette nouvelle année à grandir dans sa connaissance, mais aussi à expérimenter sa puissance, à vivre pleinement la vie du Christ en nous, une vie de victoire, une vie d'épanouissement, une vie de contentement, loin de toute forme de cupidité, une vie de triomphe par rapport au diable, par rapport aux démons, une vie de guérison par rapport à la maladie, etc. Oui, tout cela est possible. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ces moments que nous avons pris, ô Dieu, pour te tendre une oreille attentive. Une fois de plus, tu nous montres, ô Dieu, combien il est important d'acquérir une vraie compréhension de ta parole. Ô Dieu, d'acquérir, ô Seigneur, la vraie connaissance des Saintes Écritures afin d'expérimenter ta puissance. Aide-nous dans cette nouvelle année, Seigneur, à privilégier notre relation avec toi, à l'approfondir par une vie d'obéissance à ta parole. Mais comment obéir à ta parole, Seigneur, si nous ne la connaissons pas? Comment obéir à tes injonctions si nous ne développons pas une certaine sensibilité, Seigneur, à ton Saint-Esprit? Oui, que cette année soit une année où nous allons grandir, croître dans ta connaissance, la vraie, une connaissance vivante et puissante, mais aussi une année où nous allons grandir, nous allons croître dans ta grâce, dans ta puissance. Merci pour tout. Seigneur, merci, aide-nous à grandir et à expérimenter des grandes choses avec toi, au nom de Jésus. Amen.